Previously.
Il binge-watchait déjà avant que ce soit cool. Alain Carazé revient pour vous sur des séries cultes.
Au menu aujourd'hui, Glee. Retrouvez-moi tous les mercredis dans Previously, le podcast de Télé-Loisirs, pour plonger dans une série phare que non seulement je vous raconte, mais dont je vous livre aussi des coulisses. On va se parler franchement, chanter et série télé, c'est un peu en dynamique. Ça n'a jamais bien collé entre ces deux-là. À la télévision américaine, s'il y a toujours eu plein de séries avec des flics, des détectives et des docteurs, il n'y en a pas eu avec des chanteurs. Mais non, carrément, il n'y en a pas eu. Il faut attendre 1982 pour que soit transposé sur le petit écran Fame, le méga hit d'Alan Parker, avec Gene Anthony Ray et Debbie Allen, devenue depuis d'ailleurs une grande chorégraphe, une réalisatrice et une actrice. On l'a vu dans Grey's Anatomy. Et encore, il a fallu que la boîte de production MGM finance d'autres saisons pour arriver, avec Fame, à un nombre d'épisodes amortissable, 136, après que NBC ait annulé la série pour audience anémique après les 39 premiers épisodes. Et un remake Fame LA, des années plus tard, a été un bide retentissant. Il n'y a que deux exceptions dans les années 60. La famille Partridge et les Monkees, un boys band monté de toutes pièces, un véritable ersatz télévisuel des Beatles. Et j'ose à peine vous rappeler cette catastrophe industrielle qui était Cop Rock, sorte de West Side Story version télé avec des flics qui chantent et dansent. Les qualités de la série étaient inversement proportionnelles à son audience. Viva Laughlin, adapté du succès britannique Blackpool, bénéficia de la présence de Hugh Jackman à la production et dans un épisode, mais a très vite cessé sa production au bout de 8 épisodes avec seulement 2 de diffusés. Ouh. Et avant de devenir MacGyver, Richard Dean Anderson chanta en 1982 dans l'unique saison de l'adaptation télé du film Les 7 femmes de Barberousse, aux côtés de River Phoenix. Alors oui, à l'époque de Glee, le film High School Musical venait de sortir et obtenait un immense succès. Et faisait de Zac Efron une méga star auprès des jeunes. Mais ben ça c'était un film, pas une série, avec un épisode d'une heure chaque semaine. Donc je vous résume. Les séries musicales, ou si vous préférez les comédies musicales en série, c'est non seulement pas possible à produire d'un point de vue purement logistique, mais en plus, ça se prend des tôles d'audience. Alors évidemment, de nos jours, on a Empire et Crazy Ex-Girlfriends, Pose, Rise, Smash, Force Vernon, Violetta, Soundtrack et Nashville. Et si on ajoute la toute récente et remarquable Zoé avec son extraordinaire playlist et la toute nouvelle version série télé de High School Musical sur Disney+, les séries musicales ne sont plus les chats noirs de la production télé. Mais pour en arriver là, il a bien fallu une série qui aille à contre-courant, qui impose le format, non seulement par sa popularité, mais aussi en démontrant sa faisabilité. Et pour en arriver là, il faut un showrunner qui le vend en poupe, même s'il se prend des pilotes dans la figure. Et il faut un changement d'ambiance radical. Et le showrunner en question, c'est Ryan Murphy. Et il travaille actuellement sur une série glauquissime, dérangeante et décalée, Nip Tuck. Nous sommes en 2008, à l'opposé de ses projets de séries sulfureuses et provocantes, Murphy voudrait bien se lancer dans quelque chose de plus lumineux, de plus grand public, de plus facile d'accès, mais tout en conservant ses thèmes de prédilection qui lui sont très personnels. Mettre en scène des personnages rejetés des autres, différents, hors normes, mais qui, en s'associant à d'autres, allaient pouvoir surmonter les brimades et les mises à l'écart, et par là même, allaient parvenir à créer leur propre famille. Donner une voix à ceux qui, d'habitude, n'y ont pas droit. C'est C'est alors qu'arrive l'idée de Yann Brennan, que Murphy et son associé de Niptock, Brett Felchuk, vont étoffer et adapter. Raconter la vie d'une chorale de lycée, ce qu'on appelle un glee club. Dans les lycées américains, il y a des équipes de foot qui sont très très populaires, et pour les élèves qui sont un petit peu différents des autres, eh bien il y a la chorale. C'est là où ils sont relégués. Le père de la famille Glee, dans ce cas précis, c'est Will Schuster, un professeur d'espagnol du lycée McKinley qui hérite de la chorale du lycée après que son professeur de chant a été viré pour, on va dire, conduite inappropriée. Will, incarné par Matthew Morrison, voit l'opportunité de redonner à cette chorale son prestige passé. Il va la rebaptiser New Directions et parvient à réunir Rachel, Artie, Kurt, Mercedes et Tina. Considérés comme les losers du lycée, ils vont pourtant devoir recruter chez les populaires footballeurs et cheerleaders, parmi lesquels Finn et Quinn, pour rendre crédible leur projet. Ce n'est qu'ainsi qu'ils pourront participer aux qualifications régionales et remporter ensuite le championnat national des chorales. Ben oui, parce que les chorales, c'est devenu un véritable sport de compétition. Et ça, ils vont le découvrir avec stupéfaction en assistant à la prestation incroyablement dynamique des vainqueurs des précédentes années, les Vocal Adrenaline. Ah ouais, ils sont franchement bouche bée. Avec ces personnages, le club du lycée McKinley va devenir le lieu de toutes rivalités. Les chanteurs en herbe vont devoir ménager histoire d'amour et loyauté envers leurs castes respectives, tandis que M. Schuster va avoir fort affaire avec la rivalité de Sue Sylvester, la machiavélique et hilarante entraîneuse des Pop-Up Girls. Bon, dit comme ça, ça semble jovial. Mais l'intelligence des créateurs est de prendre des personnages aux apparences très clichés, mais aussi d'amplifier et d'approfondir leur personnalité. Rachel Berry, pour commencer, est une mini-diva à la voix d'or, extrêmement ambitieuse et sûre d'elle. Elle met déjà ses prestations en ligne quotidiennement et elle colle toujours une petite étoile après sa signature. Élevée par deux papas, Rachel a toujours su qu'elle serait une star dans la lignée de Barbara Streisand. Léa Michel, l'interprète donc, est une star de Broadway depuis qu'elle a 8 ans, âge auquel elle triomphe en tant que Cosette dans la comédie musicale Les Misérables. S'enchaînent d'autres succès avec Ragtime et Un violon sur le toit. Kurt, lui, est un véritable gay fashion victim, toujours habillé à la pointe de la tendance. Musicalement, il se rêve en successeur de Beyoncé, mais il vit seul avec un père mécanicien qui est loin de ses préoccupations. Chris Colfer, l'interprète de Kurt, va devenir une icône pour une bonne partie de la jeunesse de l'époque. Complexé par son statut d'handicapé en fauteuil roulant, Artie, lui, s'épanouit grâce à la musique. Kevin McHale a une carrière de chanteur avec le groupe Not Like Them, NLT. Tina Cohen-Chang, elle, est atteinte de bégaiement, sauf quand elle chante. Elle va se faire remarquer avec une chorégraphie pour le moins suggestive. Jenna Uskovitz, qui interprète le rôle de Tina, a également foulé les planches de Broadway dans Le Roi et moi. Enfin, avec sa voix puissante, Mercedes, incarnée par Amber Riley, n'a eu aucun mal à se faire accepter parmi les New Directions. Il faut dire qu'elle chante du gospel tous les dimanches à l'église et que son assurance va se heurter à l'esprit de compétition de Rachel, avec le handicap à ses yeux d'être forte et noire, et pas une poupée Barbie mince et blanche. Écoutez un peu ce que ça donne. She take my money, yeah, when I'm in need, yeah, she's a trifling friend indeed. She's a gold digger way over town that digs on me. Face à ces élèves impopulaires qui se prennent des smoochies dans la figure par les gros bras du lycée, ben il y a ceux qui vont finalement les rejoindre. Queen Favre, interprétée par Diane Agron, la chef des pom-com girls du lycée, est la petite fille modèle. Elle sort avec le quarterback de l'équipe de football, Finn, mais elle est très croyante. Elle refuse de coucher avec lui avant le mariage. Sa vie va pourtant se trouver bouleversée lorsqu'elle va se découvrir enceinte. La chorale va alors être son refuge. Avec sa coupe iroquoise, Puck, ou de son vrai nom Noah Puckerman, interprété par Mark Salling, a tout du mauvais garçon. Mais il va arriver dans la chorale pour être proche de Queen. Et enfin, pour que le projet de chorale décolle, il faut un héros. Finn Hudson, incarné par Cory Monteith. C'est le quarterback vedette de l'équipe de football américain du lycée McKinley. Et il est en couple, en apparence idéale, avec Queen. Il intègre donc la chorale pour prouver sa valeur autrement qu'avec ses muscles. It's my love. It's now or never. I ain't Et donc, enfin, face à Will et à tous les choristes, il y a surtout Sue Sylvester, interprétée par Jen Lynch, qui est la révélation de la série. Entraîneuse des pom-pom girls, elle traite tout le monde avec une arrogance et une méchanceté caricaturale, renforcée par son éternel survêtement démodé. Elle est prête à absolument tout pour protéger son prix carré et le budget qui va avec, à savoir chantage, manipulation et coups bas n'ont aucun secret pour elle. Tout est bon pour protéger la suprématie de ces pom-pom girls. Elle va même envoyer au Glee Club deux cheerleaders de son équipe afin d'espionner Will, Santana Lopez et Brittany Pierce, incarnées respectivement par Naya Rivera et Heather Morris. Glee évoque la quête de soi, le droit à la différence et la chance qui s'offre à tous. Une chance que ces choristes, pas comme les autres, vont saisir. Et le tout avec une franchise rarement vue à la télévision, abordant frontalement tous les sujets à travers un dialogue ou à travers une chanson. Et justement, à propos des chansons, en plus d'avoir un budget de 3 millions de dollars par épisode et de devoir en tourner 22 par an, les acteurs de Glee doivent également enregistrer jusqu'à 5 chansons par épisode. Un tel emploi du temps demande une organisation quasi militaire. Tout commence par le choix des chansons qui seront reprises. Pour chaque épisode, c'est avant même l'écriture du scénario définitif que les créateurs et producteurs de la série, Ryan Murphy, Ralph Falchuk et Ian Brennan, décident du thème de l'épisode et trouvent les chansons en fonction de ce thème. P.G. Bloom, le superviseur musical, contacte ensuite les auteurs de la chanson pour obtenir les droits de reprise du titre. Puis Adam Anders, le producteur de la musique, met au point une version temporaire de la reprise avec des chanteurs de studio dont les voix sont proches de celles des acteurs. Une fois que cette version intermédiaire est validée par Ian Murphy, la musique est alors enregistrée avec l'orchestration définitive et les vedettes de la série enregistrent finalement leur partie chantée. Eh oui, c'est vraiment les vedettes de la série qui chantent. Ne reste plus pour les acteurs qu'à répéter les pas de danse avec le chorégraphe Zachary Woodley et à tourner l'épisode. C'est simple, non? Enregistrement et répétition demandent approximativement 2 mois. Glee connaît une avant-première idéale pour un lancement avec un public captif. C'était le mardi 19 mai 2009, juste après le segment final de la compétition pour American Idol. Ce faisant, elle perd quand même la moitié des spectateurs de l'émission. Mal barré. Le pilote de Glee a été tourné à la fin de l'année précédente, dans deux authentiques lycées, à Burbank et à Long Beach. C'est ensuite, quand la série a eu le feu vert, que les décors reproduisant exactement les couloirs et salles des deux écoles ont été érigés dans les studios de la Paramount. Jusqu'au lino d'une des écoles qui a été exactement repris, exactement le même. Ou même les chaises de l'auditorium qui étaient parfaitement semblables. La série démarre donc à la rentrée 2009 et en quelques semaines, elle atteint une moyenne de 8 millions de spectateurs extrêmement fidèles, dont une bonne partie d'entre eux âgés de 18 à 49 ans. Eh bien ça, c'est l'âge magique pour les publicitaires, la catégorie de gens que beaucoup d'annonceurs rêvent de toucher. Glee obtient très vite une confirmation d'une saison incomplète, que la commande initiale de 13 épisodes passe donc à 22. Parce que, ce qui était absolument inattendu, en plus de cette audience plutôt respectable, c'est le potentiel de Glee en tant que franchise. Just a small town girl, living in a lonely world. She took the midnight train going anywhere. En clôturant l'épisode pilote, la chanson Don't Stop Believing est devenue l'hymne de Glee. Elle a été vendue à plus de 500 000 exemplaires. La reprise par le casting de la série a remis sur le devant de la scène le tube du groupe rock américain Journey, qui datait de 1981 et qui figure sur l'album Escape. Le tournage d'ailleurs de cette performance, celle qui a lancé la série, a demandé 1 jour et demi, 3 semaines de répétition et 4 chorégraphies avant de trouver la bonne. À titre de comparaison, après quelques mois de tournage, ce type de séquence se tourne en 2 heures. Singer in a smoky room. I smell Mais là où la série dépasse le cadre de simple série télé, c'est qu'après seulement 7 épisodes, les reprises de la série totalisent 1 700 000 achats sur iTunes. Glee a transcendé son support initial de série pour devenir une force de vente de chansons, reprises par de parfaits inconnus. À la fin de cette première saison, ce sont 3 400 000 titres qui se sont vendus. Évidemment, la saison tire aussi plusieurs lignes narratives, telles l'attirance de Winchester pour sa collègue Emma, alors qu'il est marié à Terry, et que celle-ci prétend attendre un enfant de lui. Il finira d'ailleurs par divorcer. Kurt et Mercedes intègrent l'équipe de cheerleader de la machiavélique Sue Sylvester, parce qu'ils sont tous les deux frustrés par leur faible implication au sein de la chorale. Artie va se rapprocher de Tina, les parents de Finn et de Kurt vont cohabiter, et même se rapprocher beaucoup. Puck va perdre sa coiffure iroquoise, c'est le drame, et surtout, à force de travail, les New Directions du lycée McKinley remportent la première étape des qualifications pour le concours de chorale. Et maintenant, elles se dirigent vers le championnat régional. Devront y affronter de terribles rivaux en la personne des Vocal Adrenaline. Et, ils vont perdre. Parce que face à Bohemian Rhapsody, on ne peut pas faire le poids. Mama, just killed a man. Put a gun against his head. Pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun. En cours de saison, Jesse St. James, à savoir l'acteur Jonathan Croft, le chanteur vedette des Vocal Adrenaline, arrive à McKinley. Et téléguidé par sa coach, Shelby Cochran, il va séduire Rachel. En réalité, Shelby Cochran est la mère biologique de Rachel. Mais ça, Rachel ne le sait pas. Dans le dernier épisode de la saison, Quinn va donner naissance à un bébé, Beth, qui va être adopté par Shelby, justement. L'originalité, l'exigence et la médiatisation de la série inciteront petit à petit des vedettes à apparaître dans la série dès cette saison 1, comme Olivia Newton-John. Patrick Harris, avec une autorisation spéciale du network concurrent, la CBS, chez qui Harris apparaît dans How I Met Your Mother. L'épisode où il apparaît et où il affronte Winchester pour décrocher un rôle dans une nouvelle version des Misérables est réalisé par Josh Whedon en personne. L'autre conséquence de ce succès stratosphérique est que la production obtient plus facilement l'autorisation de faire une cover de leur chanson, à savoir une adaptation au point que des épisodes affichent une thématique associée à une star de la chanson. Et le premier de ces épisodes va marquer le public. Strike a pose. En effet, la série a réalisé son record d'audience grâce à l'épisode The Power of Madonna, entièrement composé de reprises de la Madone, 14 800 000 téléspectateurs rien qu'aux États-Unis. Ryan Murphy avait déjà travaillé indirectement avec la star en réécrivant son film Un couple presque parfait. Il a donc obtenu une autorisation alors que tout le monde lui prédisait que Madonna n'allait jamais accepter. Et pour les chorégraphies de cet épisode, il a fait appel à Zach Woodley, un des responsables de la tournée réinvention de la Material Girl. Le disque tiré de cet épisode est lui rentré directement numéro 1 du classement Billboard outre-Atlantique. Like a virgin, touched for the very first time. Like a virgin, when your heart beats next to... 5 épisodes plus tard, Glee rend hommage à une autre mégastar incontournable de la pop musique, Lady Gaga, avec là encore des numéros absolument stupéfiants. Avec ces épisodes plus exceptionnels que les tout premiers, des épisodes diffusés dans une deuxième partie de la saison, d'avril à mai, la série fait un bond de 46% dans les audiences. Et elle a déjà récolté le Golden Globe 2010 de la meilleure série humoristique ou musicale, le People's Choice Award de la meilleure nouvelle série humoristique, le Screen Actors Guild Award du meilleur groupe d'acteurs dans une série humoristique. Pas mal, hein? Pour les protagonistes de la série, c'est un vrai tourbillon, un conte de fées. Ils ont ainsi chanté en présence du président Barack Obama lors d'un dîner organisé par l'organisation Human Rights Campaign. Ils ont ensuite entonné l'hymne américain en ouverture de l'un des plus importants matchs des World Series de baseball. Enfin, ils ont été invités à se produire à la Maison Blanche lors des festivités organisées pour Pâques en avril 2010. Et comme si cela ne suffisait pas, à la fin de la saison, le casting de Glee va donner une série de concerts, Glee Live in Concert, à travers les États-Unis. La saison 2 de la série, qui démarre à la rentrée 2010, tente de ralentir un petit peu cet emballement médiatique qui s'est créé autour de la série et de ses chansons, et principalement sur ses ventes via iTunes. En fin de saison 1, on montait quelquefois à 8 morceaux par épisode qui s'enchaînaient quelquefois avec le strict minimum de scènes dialoguées. Conscient que cela se faisait au détriment de la psychologie des personnages, même si les chansons sont en lien avec l'histoire et avec les personnages eux-mêmes, l'ambition est dans cette saison 2 de revenir à 5 chansons par épisode, comme au lancement de la série. Bon, spoiler, ça va être en vain. Gwyneth Paltrow incarne Holly Holiday, la remplaçante de Will Schuster, le temps d'un épisode. Plus qu'une simple enseignante de substitution, elle va également le menacer en reprenant en main la chorale. John Stamos, oui, le John Stamos de la fête à la maison, incarne le dentiste Carl Howell. Ah ouais, un dentiste. C'est le nouveau rival de Will Schuster dans le cœur de Emma. Et c'est en allant chez lui, en se faisant anesthésier, que les chanteurs délirent et s'imaginent alors dans des clips de Britney Spears. Britney Spears qui fait 2 très courtes apparitions dans le même épisode. Sans surprise, avec 13 500 000 spectateurs aux États-Unis, c'est l'épisode le plus regardé de la saison 2. Et puisque l'on parle d'apparition, Barry Bostwick et Meat Loaf font un petit coucou dans un épisode très attendu. Pour Halloween, le lycée monte une version du fameux Rocky Horror Picture Show. Et il y a 2 premières dans cette saison. Un épisode entièrement consacré à un album, Rumors, des Fleetwood Mac. Et un épisode avec uniquement des chansons originales et non plus des reprises. Et en fait, il y a même un troisième événement. Cette année, c'est un épisode de Glee qui va suivre le Super Bowl. On y retrouve notamment une exceptionnelle reprise de Thriller de Michael Jackson, mélangée avec la chanson Heads Will Roll des Yeah Yeah Yeah. C'est un des épisodes les plus chers de la série, avec un budget avoisinant les 5 millions de dollars, et il sera suivi par 26 800 000 Américains. Yeah. Bon, et sinon, de quoi ça parle cette saison ? Bon, de rivalité amoureuse et de conflits. Tina préfère Mike à Artie, Artie se console dans les bras de Brittany, Queen redevient Popcorn Girl et donc redevient la méchante du début, Rachel et Finn sont maintenant ensemble, puis plus rien ne va plus entre Rachel et Finn et ils se déclarent leur amour en fin de saison. Sans oublier Sue Sylvester, la redoutable entraîneuse des cheerleaders, va remplacer le proviseur puis annoncer son mariage. Queen, Brittany et Santana vont finalement quitter les Cheerios, son précieux groupe de cheerleaders, provoquant ainsi la première défaite de Sue en 7 ans lors d'une compétition de Pop-Up Girl. Humiliée, Sue Sylvester va désormais attaquer les jeunes chanteurs sur leur propre terrain. Yeah, tell you something. I think you'll understand. Mais c'est Kurt qui va devoir prendre la décision la plus difficile, être transféré vers notre lycée. Et il va prendre la direction de la saison avec une trame majeure. Dave Karofsky, qui depuis le début est un des joueurs de hockey de l'équipe du lycée et qui maltraite et bouscule les membres du Glee Club, est celui qui s'en prend régulièrement à Kurt. Dans le même temps, un nouveau venu de la série, Blaine, interprété par Darren Criss, membre de la chorale des Warblers au sein du lycée privé d'Alton Academy, va convaincre Kurt de ne plus se laisser brutaliser à McKinley et de demander donc son transfert pour le rejoindre à Dalton. Mais dans l'épisode On My Way, la saison suivante, on marque un autre moment important. Karofsky va faire une tentative de suicide. En effet, il est gay. Il est gay au placard et son secret a été dévoilé à tous les autres élèves du nouveau lycée où il se trouve. C'est Max Adler qui tient ce rôle. Il se livre à Kurt, qui va d'ailleurs le protéger. Glee prône plus que jamais l'inclusion et la diversité et la série est appréciée pour sa représentation franche et honnête des jeunes gays à la télévision. Il y a même un magazine comme Entertainment Weekly qui rappelle qu'en 1994, Wilson Cruz interprétait déjà Ricky dans Angela 15 ans, que Willow et Tara étaient ensemble dans Buffy et que la série canadienne pour jeunes Degrassi compte jusqu'à 8 personnages importants gays, bi et trans. Le dernier épisode de la saison 2, écrit et réalisé par un des créateurs de la série, Brad Falchuk, a coûté 6 millions de dollars, l'épisode le plus cher jamais produit à l'époque. Et pour cause, il se déroule en partie à New York, où le grand final des chorales se déroule. À nouveau, 5 chansons originales ont été produites pour l'épisode, ainsi que 5 reprises avec des scènes tournées à Times Square et à Central Park. Mais vous pensiez que la frénésie Glee allait s'achever à la fin de la saison pour reprendre en septembre ? Eh ben, erreur. Entre la saison 2 et 3, Glee continue de squatter les médias. Parce qu'en effet, Glee Live 3D va sortir dans les salles de cinéma américaines en août. Ce film, en relief, produit par Ryan Murphy, sera en fait la captation en 3D des concerts de la tournée estivale. Si des auditions avaient été entreprises à la fin de la saison 1 pour recruter 3 nouveaux venus de cette saison 2, on passe maintenant à la vitesse supérieure avec The Glee Project, qui pendant la pause estivale va être un talent show comparable à La Nouvelle Star et promet aux gagnants une participation à cet épisode de la saison 3. Et nous y voilà en saison 3. Après avoir perdu en finale l'année dernière, les langues se délient. Mercedes mène l'affront. Fatiguée d'être léguée au second plan, la jeune chanteuse persuade une partie de ses camarades de rejoindre une chorale concurrente, les Trouble Tones, dirigée par la mère biologique de Rachel. Alors que cette guerre vocale fait rage, les élèves du lycée McKinley commencent à penser à leur avenir. Si Kurt et Rachel rêvent de rentrer à la NYADA, l'Académie des arts dramatiques de New York, une école imaginaire mais qui fait irrémédiablement penser à celle de Fame, encore leur faut-il y être accepté. Pour mettre toutes les chances de leur côté, Rachel participe à une production de West Side Story, mise en scène par Artie, tandis que Kurt se présente à l'élection des représentants des élèves, face à Brittany. Dans le même temps, la coach Sue Sylvester fait, elle, campagne contre le père de Kurt pour être élu au Congrès. Ouais, elle a envie de se lancer dans une carrière politique. Quant à Santana, la pop-up girl acerbe, elle se demande si elle peut proclamer publiquement son amour pour Brittany. Et durant cette saison, en plus de l'arrivée de Mike Chang, interprété par Harry Shum Jr., Blaine est dorénavant en lycée McKinley, aux côtés de Kurt. D'ailleurs, l'été a été la période des dérapages de communication. Il fut en effet annoncé par Ryan Murphy que Chris Colfer, Cory Monteith et Lea Michele allaient quitter la série en fin de saison. Mais en fait, non. Bon, enfin, sauf que oui, ils vont la quitter pour une série dérivée, un spin-off. Mais au final, non, ben finalement, ils restent. Le magazine Entertainment Weekly en a même fait une lettre ouverte en suppliant Murphy ben, de la fermer, d'austère, de ne plus rien dire. Parmi les vedettes invitées de la saison, il y a Jeff Goldblum, de La Mouche, qui incarne l'un des deux papas de Rachel, aux côtés de la star de Broadway, Brian Stokes Mitchell. Thomas Calabro, de Melrose Place, tient le rôle du père de Puck, et Gloria Estefan tient le rôle de la mère de Santana Lopez. Whoopi Goldberg est dans le rôle d'une enseignante chargée du recrutement de la New York EDA, mais aussi Matt Boomer, de FBI Duo Très Spécial, qui incarne un frère de Blaine, et il y a aussi Lindsay Lohan et Perez Hilton dans leur propre rôle. Mais la palme du rôle le plus original revient à Hélène Mirren. L'actrice oscarisée pour ce Queen interprète la voix intérieure de Becky, la jeune assistante de Sue Sylvester. Très attendu, un épisode spécial est consacré aux chansons de Michael Jackson. Écoutez bien, c'est un duo de joueurs de contrebasse, tout cellos, que vous entendez dans cette version de Smooth Criminal. Il y a aussi un autre épisode spécial sur Saturday Night Fever, la finale du samedi soir. Et si Monsieur Schuster avait juré de ne pas faire de morceaux disco, là, le film est tellement la quintessence et l'origine du disco qu'ils ne peuvent pas faire autrement. That sweet city woman, she moves through the light, controlling my mind and my soul. Et dans un épisode, le chanteur Ricky Martin joue les professeurs d'espagnol. Enfin, un hommage a également été rendu à Whitney Houston avec l'interprétation de « I Will Always Love You » par Mercedes, dans un épisode diffusé aux États-Unis un peu plus de deux mois après la disparition de la diva. C'est la dernière ligne droite pour les élèves du lycée McKinley. Malgré un dramatique accident de la route qui a touché Queen et la laisse en fauteuil roulant, les apprentis chanteurs doivent rester concentrés sur leur objectif ultime, la finale des chorales, qui a lieu dans quelques semaines à Chicago. Un concours qu'ils espèrent enfin pouvoir remporter cette année. L'enjeu de ce concours est d'autant plus important qu'une partie du Glee Club, 8 d'entre eux pour être exact, s'apprête à s'envoler pour l'université. Il s'agit de Rachel, Mike, Quinn, Finn, Kurt, Mercedes, Santana et Puck. Et enfin, les New Directions vont l'emporter, ce qui marque d'une pierre blanche le changement qui va se jouer dans la saison prochaine. We are the champions, my friends. And we'll keep on fighting till the end. We are the champions. Nous sommes en saison 4 de Glee. Et maintenant que les New Directions ont enfin remporté le titre de la meilleure chorale lycéenne des États-Unis, ils sont nombreux à avoir quitté leur petite ville pour tenter leur chance ailleurs. Rachel intègre l'école d'art dramatique de ses rêves à New York. Elle va d'ailleurs y rencontrer le séduisant Brody. Puck est en Californie. Finn s'est enrôlé dans l'armée. Et quant à Kurt, malgré son diplôme en poche, il ne sait pas trop quoi faire. Sarah Jessica Parker incarne Isabel Wright, la rédactrice en chef du site web du magazine Vogue. Kurt va devenir son stagiaire. Kate Hudson est, elle, Cassandra Julie, la professeure de danse de Rachel. Et Whoopi Goldberg revient dans le rôle de Carmen Thibodeau, l'intransigeante directrice de la New York Academy of the Dramatic Arts. Open, De leur côté, toujours au lycée, Blaine, Artie, Tina, Brittany et Sam vont remettre leur titre en jeu. Ils vont donc recruter de nouveaux chanteurs, avec les sélections régionales en vue. Et comme avec leurs aînés, les histoires de cœur vont se mêler à la musique. Jeff, alias Jacob Artiste, le turbulent demi-frère de Puck, va hésiter entre Kitty, Becca Tobin, la cheerleader, et Marley, la chanteuse à la voix d'or, interprétée par Supergirl en personne, Melissa Benoit. Sauf qu'elle n'était pas encore Supergirl à l'époque. Hein. Et c'est sans compter la rivalité avec le footballeur Ryder, interprété par Blake Jenner. Ils seront rejoints par Unique, oui, il s'appelle Unique, c'est son nom, voilà, Alec Newell, un ancien adversaire des New Directions qui s'est inscrit dans leur lycée. Mais les changements ne sont pas que devant la caméra, avec de nouveaux personnages. La série change aussi de jour de diffusion sur la chaîne Fox. Elle passe au jeudi soir, juste après le programme donnant les résultats de X-Factor. Et oui, aux États-Unis, quand un télécrochet repose sur les appels des téléspectateurs, il doit faire avec les deux horaires, côte ouest et côte est. Et ils ne peuvent pas exclure l'un tout entier. Cela signifie donc que c'est toujours le lendemain de l'émission, dans une sorte de suite, que les résultats des appels sont donnés en tenant compte de toutes les régions. Ce faisant, le jeudi soir, la compétition est beaucoup plus rude pour Glee. The Office et Grey's Anatomy lui font face, ainsi que Person of Interest sur la CBS. Si on ajoute à cela que le cycle avec les acteurs d'origine est terminé et que leurs trames sont maintenant très séparées de celles des nouveaux New Directions, on comprend que les audiences baissent considérablement. La saison se termine à presque 6 millions de spectateurs, alors que les précédentes fins de saison étaient à 11,8 millions ou à 7,5 millions. La moyenne de cette saison est de 8 260 000 spectateurs. Ajoutez à cela le fait que la série a bien tabassé les années précédentes avec les concerts, le film en 3D, le reality show, etc. Il y a carrément une petite saturation de clics. Bon, on ne va pas non plus jouer les fines bouches, ne boudons pas notre plaisir devant l'épisode spécial où l'on adapte Grease, qui devient donc Gleeks. La fin de la saison, par contre, ne correspond pas à la fin de l'année scolaire pour les personnages, et elle se poursuit dans la saison suivante. Le 13 juillet 2013, Cory Monteith meurt. En mars, il était rentré en rehab et avait donc disparu de la série pour les 4 derniers épisodes de la saison. De même, il n'apparaissait pas au tout début de la saison pour des raisons inexpliquées à l'époque. Cette disparition tragique va durement marquer la série, alors que, un peu avant, les deux prochaines saisons étaient contractuellement assurées. Le ton va irrémédiablement changer, mais Glee restera tout de même la voix des sans-voix, à travers des chansons et des trames toujours plus provocantes. Alors cette voix, ben je vous propose de l'entendre. Vous avez une semaine pour vous replonger dans les épisodes les plus marquants de la série. C'est simple, ils sont tous sur la plateforme Disney+, et en haute définition. Et la semaine prochaine, ici même, non seulement nous terminerons l'aventure Glee avec les deux dernières saisons, mais je vous proposerai de redonner vie à Glee par la voix de ceux et de celles qui l'ont fait. Créateurs, acteurs, actrices, ils seront là. Ian Brennan, Chris Colfer, Jane Lynch, et des surprises. La semaine prochaine dans Previously, on laissera la parole aux Gleeks. Ce podcast est disponible sur les plateformes Deezer, Spotify, Podcast Addict, Google Podcast, Apple Podcast, Castbox et Overcast.